السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. On s'est arrêté la dernière fois dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, à la bataille de Uhud, et en particulier à l'événement où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été gravement blessé. Et on a expliqué que pour étudier et aborder cet événement de fond en comble, on se pose 6 questions auxquelles on tente de répondre. La première question, c'est: est-ce que cet événement est authentique? Est-ce qu'il a été authentifié dans les chaînes de transmission et de narration, de telle sorte à ce qu'on puisse affirmer que cet événement, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé, frappé pendant la bataille de Uhud, il est authentique? Est-ce qu'il est vraiment arrivé? C'est la première question. La deuxième question, c'était, selon ces versions et ces textes, quel type de blessure il a reçu? Où il a été blessé? On avait également répondu à cette question. Troisième question, c'était par quel moyen, par quelle cause, par quelles armes il a été blessé. On avait répondu à cette question. Quatrième question, qui sont les personnes? Est-ce qu'on a des noms de personnes qui l'ont directement blessé? Et on avait répondu également à cette question. Et ensuite, on a posé la cinquième question, et c'était là qu'on s'était arrêté. C'était: quelle a été la réaction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a été blessé? Et il nous restera la sixième et dernière question à voir après celle-ci. La sixième et dernière question à voir par rapport à cet événement, pas encore par rapport à la bataille de Uhud. On n'a pas encore terminé la bataille de Uhud, loin de là. Mais en tout cas, par rapport à cet événement, il nous restera la sixième question. La sixième question, c'est: quelle a été la réaction des compagnons? On a dit que pour la première question, oui, c'est authentique. Ce récit se trouve dans les deux authentiques, le Bukhari et le Muslim. On a dit pour la deuxième question: quel type de blessure? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé à la tête, son casque a été déformé. Il a reçu un coup aussi au niveau du front, au niveau des joues. Sa lèvre a été blessée, il a perdu l'incisive latérale de la mâchoire d'en bas, donc il a perdu une dent, il a été blessé à l'épaule et au genou. Par quel moyen? On a dit tout d'abord il est tombé dans un des trous qui avait été creusé comme piège. On lui a jeté des pierres lorsqu'il est tombé dans ce trou, et on l'a frappé évidemment avec des lames, des épées et des lances. Qui sont les personnes qui l'ont directement blessé? Selon les versions, il y a 4 personnes qui sont citées. Il y a celui qui a creusé les trous, puisque par la cause des trous qu'il a creusés, on s'en est tombé dans un de ces trous. C'est Abu Amr al-Fasiq. Je ne vais pas rappeler qui est Abu Amr al-Fasiq, on l'a déjà vu plusieurs fois. Ensuite, on avait parlé d'Abdullah ibn Shihab al-Zuhri. Ensuite, on avait cité plus explicitement Utba ibn Abi Waqqas. Et enfin, Abdullah ibn Qami'ah. Ce sont les 4 personnes qui sont citées. Après, ça ne veut pas dire que il n'y en a pas d'autres, c'est possible qu'il y en ait d'autres, mais en tout cas ceux qui reviennent dans les versions, ce sont ces 4-là. Celui qui revient le plus et qu'on retrouve dans tous les livres, c'est Abdullah ibn Qami'ah. les versions qui vont dans son sens sont explicites et claires. Ensuite, en deuxième position, on a Utbah ibn Abi Waqqas, où il y a quand même un certain nombre de versions qui parlent de lui. Et par contre, ceux qu'on retrouve le moins, c'est Ibn Shihab al-Zuhri et Abu Amr al-Fasiq. Léana, c'est un lien indirect, c'est en creusant les trous qu'il a blessé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous, la dernière fois, on avait posé la question, quelle a été la réaction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Pour résumer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il va être blessé, donc il va être ensanglanté, il va recevoir toutes ses blessures, il va avoir plusieurs réactions selon les versions qu'on a citées. Tout d'abord, on a des versions qui disent « Wa huwa yad'uuhum ila rabbihim ». Il les invoque auprès de leur Seigneur, auprès d'Allah. C'est-à-dire, à propos de ce qu'ils lui ont fait subir, il s'en remet à Allah. Il a invoqué Allah. Pour eux, contre eux, ça c'est une autre question qu'on va voir juste après en détail. Mais en tous les cas, il a fait des invocations. Ça c'est ce qui revient en premier lieu. En deuxième lieu, on voit que plusieurs versions disent que le professeur s'est exclamé en disant « Ishtadda ghadabullahi ala qawmin fa'alu kada wa kada binabiyyihim ». La colère d'Allah est grande contre des gens qui ont fait telle chose ou telle chose contre leur prophète. Donc le professeur Hassan s'exclame, et il fait un constat, et en même temps un constat qui a valeur d'avertissement. Ah, attention, vous encourez la grave colère d'Allah Azzawajal si vous faites des choses comme ça, si vous faites subir cela au prophète qu'Allah vous a envoyé. L'autre réaction aussi, c'est que le professeur Hassan a dit كيف يفلح قوم فعلوا شجوا مثلا شجوا نبيهم. Comment un peuple peut avoir la réussite, peut avoir le succès alors qu'ils ont balafré, qu'ils ont cicatrisé, ils ont blessé leur prophète. Allah, il leur envoie un prophète, et comment ils le reçoivent, comment ils accueillent le prophète, ils le blessent. Donc le prophète a aussi eu cette réaction. Et il a aussi eu comme réaction Allahumma ghafir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ô Seigneur, pardonne à mon peuple, ils ne savent pas. S'ils font ça, c'est parce qu'ils ne savent pas. Ils ne se rendent pas compte, ils n'ont pas conscience de la gravité de ce qu'ils sont en train de faire. Ya Allah, pardonne-leur. Si on veut résumer, on voit ici que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même dans cette situation, il est en train de remplir son rôle de prophète. Et quand il s'exclame dans les différentes versions, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de prophète. Il dit كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. Comment un peuple pourra avoir la réussite alors qu'ils ont blessé leur prophète? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il se rappelle à lui, il leur rappelle à eux qui il est, quel statut il a, pourquoi il en est arrivé là. Pourquoi il est devenu leur adversaire? Pourquoi eux, ils en ont fait leur adversaire? Parce qu'il a dit qu'il était prophète. Et qui a dit qu'il était prophète? C'est Allah Azza wa Jalla. Donc même dans ce moment le plus dramatique, on va dire, de sa vie, où sa vie ne tient qu'à un fil, il est tombé dans un trou et des dizaines d'idolâtres sont autour de lui et tentent de le tuer, de l'éliminer. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّ نَبِيَّهُمْ. Comment un peuple pourra avoir la réussite alors qu'ils ont blessé leur prophète? Même dans ce trou-là, même dans un moment où il se dit peut-être que c'est les derniers instants de sa vie, il est en train de remplir le rôle de prophète. C'est-à-dire qu'à aucun moment il ne met sa vie entre parenthèses. Et le prophète, c'est pour ça qu'il était très important d'étudier sa vie et de tenter de le faire comme on le fait nous, c'est-à-dire minutieusement, rigoureusement, scrupuleusement, avec les moindres détails, parce que le professeur Asselem, dès qu'il a su qu'il était prophète jusqu'à sa mort, il a toujours tenté au mieux de remplir son rôle. Quelle que soit la situation de sa vie, qu'il soit en temps de paix ou en temps de guerre, qu'il soit dans un moment de bonheur où il se marie, où il marie l'une de ses filles, c'est un moment de bonheur. Ou dans un moment de tristesse, quand il perd quelqu'un dans sa famille. Dans toutes ces situations, il peut être pris comme modèle en tant que prophète. Alayhi salatu wassalam. Donc, première leçon à tirer, c'est qu'on voit que même dans cette situation, il remplit son rôle de prophète. Deuxième leçon à tirer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans les différentes réactions qu'on a citées, qu'il a eues, il exprime sa compassion envers qui ? Avant de l'exprimer envers son camp, les compagnons qui sont autour de lui et qui tombent les uns après les autres, il exprime sa compassion envers ceux qui lui font du tort, envers ceux qui veulent le tuer, à travers les invocations qu'il fait pour eux. Comment un peuple pourrait avoir la réussite alors qu'ils me font cela ? C'est-à-dire, mais moi je veux qu'ils aient la réussite. Donc il exprime sa compassion. Il avertit, attention, la colère d'Allah peut être grande contre ceux qui font cela à leur prophète. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas que cette colère d'Allah s'abatte sur eux. Donc il les avertit. Donc il fait preuve de compassion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ses réactions, il fait preuve également, il montre qu'il est prêt à pardonner. Puisqu'il demande le pardon d'Allah pour eux. Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lam. Ils veulent le tuer. Et lui, en échange, qu'est-ce qu'il demande ? Ya Allah, pardonne-leur. Pardonne-leur. Et le pardon va de pair aussi avec la patience. Il est patient face à ce qu'ils lui font subir. Le pardon et la patience. Et même dans cette dua, il y a plus que le pardon et la patience. Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lam. Il y a aussi le fait qu'il leur trouve des excuses devant Allah. D'une certaine manière, et Allah, pardonne-le. Ne te mets pas en colère contre eux. S'ils me font ça, c'est parce qu'ils ne savent pas. S'ils savaient vraiment ce qu'ils sont en train de faire, la gravité de ce qu'ils sont en train de faire, ils ne l'auraient pas fait. Le professeur leur trouve des excuses pour qu'Allah leur pardonne. Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Au Seigneur, pardonne-leur. C'est pas juste pardonne-les, c'est tout. Pardonne-les, c'est parce qu'ils ne savent pas. Pardonne-les parce que ça, c'est qu'une conséquence de leur ignorance. S'ils savaient, ils n'auraient pas fait ça. S'ils avaient vraiment conscience de la gravité de ce qu'ils sont en train de faire et de ce qu'ils encourent comme conséquence, ils ne l'auraient pas fait. Et enfin, tout cela montre quoi ? Tout cela montre que le professeur Salem est résigné, mais il s'en remet intégralement et totalement à Allah Azzawajal. Parce qu'il invoque Allah. Dans cette situation, il parle avec Allah. Oh mon Seigneur, pardonne-leur. Et il invoque Allah, Ya Allah. Donc qu'est-ce qu'il fait dans cette situation ? Il s'en remet à Allah. Bien sûr qu'il va aussi faire les causes, puisqu'on verra par la suite, quand on répondra à la sixième question, quelle a été la réaction des compagnons, c'est que le professeur Sam va aussi faire appel à ses compagnons. Mais d'abord, il s'en remet à Allah. Il se soumet à Allah Azza wa Jalla, il s'en remet à Allah. Le premier des réflexes qu'il a, c'est qu'il s'en remet à Allah Azza wa Jalla. Et sans aucun doute, le professeur sallam ici, nous devons le suivre et nous devons le prendre comme grand exemple dans cela. Même dans la pire des situations, il s'en remet d'abord à Allah Azza wa Jalla et ensuite il va chercher les solutions pour essayer de sortir de cette situation. Mais d'abord, il s'en remet Allah Azza wa Jalla à travers ses invocations. Il prend refuge auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et de manière générale, nous on avait dit que il y a dans l'authentique de Muslim une version dans laquelle il est dit, selon le compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon, donc ce compagnon, il nous dit كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Donc le compagnon Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه ici nous dit, c'est comme si j'étais en train de voir le professeur sallam. Donc il dit, c'est une façon de dire, c'est vague dans mes souvenirs, mais je me souviens que le professeur sallam يحكي نبيا من الأنبياء. Parle de. Parle de qui ? Parle d'un prophète parmi les prophètes. Donc il se rappelle, Abdullah ibn Mas'ud, qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a parlé d'un prophète parmi les prophètes. يحكي نبيا من الأنبياء. ضربه قومه. Son peuple l'a frappé. Le peuple de ce prophète, ils l'ont frappé. فأدموه. Ils ont fait couler son sang. وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول. Il essuie le sang qu'il a sur son visage, ce prophète, et il dit « Allahumma ghafir li qawmi fa innahum la ya'lamun »« Oh Allah, pardonne à mon peuple, c'est parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils ne savent pas qu'ils font ça. » Cette version, on peut lui donner trois explications. Soit, en vérité, ça parle de Uhud. Puisqu'on a d'autres versions qu'on a citées, nous, le professeur Hassan va dire à ce moment-là, quand il va tomber dans le trou et qu'il va être gravement blessé, il va dire Allahumma ghafir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Seigneur, pardonne à mon peuple, c'est parce qu'ils ne le savent pas. Donc ça va en concordance avec cette version. Donc c'est une option d'interprétation et d'explication de ce texte. Probablement, Abdullah ibn Mas'ud se rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est arrivé ça à Uhud. Mais en même temps, dans cette version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou en tout cas Abdullah ibn Mas'ud, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'un prophète parmi les prophètes, mais il ne cite pas lequel. Donc ça peut aussi sous-entendre que Abdullah ibn Mas'ud, dans cette version, en fait, peut-être qu'il parle d'une prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire avant la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les informait en disant il y a un prophète parmi les prophètes d'Allah. Son peuple va le frapper à un tel point qu'ils vont l'ensanglanter. Et il va faire des invocations pour eux en disant Allahumma ghafir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Seigneur, pardonne à mon peuple, c'est parce qu'ils ne savent pas. Donc c'est probablement aussi, ça c'est la deuxième interprétation qu'on peut donner à ce récit, c'est que Abdullah ibn Mas'ud l'a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la bataille de Uhud et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prédit pour la bataille de Uhud. Mais que lui-même n'a pas dit de quel prophète il s'agit. Peut-être parce que lui-même ne le savait pas et qu'en fait c'est à lui que ça arrive. Et troisième interprétation possible, c'est qu'en fait, tout simplement, c'est arrivé pendant la période mécoise. On sait qu'à plusieurs reprises, le prophète Hassan s'est fait bousculer, s'est fait frapper et beaucoup d'autres choses. Et le prophète Hassan répondait par la patience et par des invocations pour son peuple. Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Pardonne-leur, ils ne savent pas. Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Guide-les, ils ne savent pas. Non. Et donc, tout ça nous montre que probablement c'est arrivé au professeur Sima à plusieurs reprises pendant la période mécoise et c'est arrivé à la bataille de Uhud. C'était sa marche à suivre. Son école de pensée lorsqu'il devait subir de graves choses de la part de son peuple. Et aussi, il a pris en modèle des prophètes, les prophètes avant lui. Les prophètes avant lui, c'était aussi leur marche à suivre. Quand leur peuple leur faisait du mal, leur faisait du tort, ils invoquaient Allah en leur faveur. Donc, tout ça, ça nous permet de répondre à cette cinquième question. Quelle a été la réaction du prophète Hassan lorsqu'il a été blessé ? Il y a juste un angle dans cette question qu'on n'a pas vu, c'est lequel ? C'est est-ce que le professeur Asselem, à cette occasion, il a invoqué contre des gens en particulier ? On a des versions qui nous parlent du fait que le professeur Asselem a invoqué contre Ibn Qami'a. On les avait déjà vus. Par exemple, la version qui est rapporté par Tabarani, où on nous dit Rama Abdullah ibn Qami'a Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam Fashajja wajhahu wa kasara raba'iyatahu wa huwa yaqul khudha minni wa ana ibn Qami'a faqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yamsahu ad-dama 'an wajhihi ما لك أقمأك الله فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. Donc, dans cette version, il y en a d'autres, mais nous on se contente de celle-là, qui a été rapportée par Tabarani. On nous dit que Abdullah ibn Qami'a, un des quatre hommes qui l'a directement frappé, c'est lui qui revient le plus dans les versions. Rama Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, il a visé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a touché. Fashajja wajhahu, il l'a blessé au visage. Wa kasara raba'iyatahu, et il a cassé sa dent. Abdullah ibn Qami'a, lui tout seul, il a causé une blessure à son visage et il lui a fait perdre une dent. Et en plus de ça, il dit « Khudha minni wa ana ibn Qami'a » « Prends ça de moi et je suis ibn Qami'a » Il revendique qui il est et il revendique ce qu'il fait, il l'assume. « Prends-le de moi et je suis ibn Qami'a » Le fils de Qami'a. Et le professeur Hassan va, son sang coule, donc il va essuyer son visage et il va lui dire « Malak, qu'as-tu ?» Aqma'ak Allah. Le verbe qama'a yaqma'u, ça veut dire jeter, balancer. Et donc le professeur Hassan lui répond à travers son nom, hein, et il lui dit aqma'ak Allah, qu'Allah te jette. Ça, c'est une dua contre. Ça répond à la question, ce que le professeur Hassan a invoqué, contre ou pas à ce moment-là, où il n'y a que les dua en faveur, comme on l'a dit la fois dernière. Mais je vais revenir sur l'authenticité ou non de ce texte. Mais en tous les cas, pour l'instant, on explique le texte. Aqma'ak Allah, qu'Allah te jette. Et ensuite, le texte nous dit فَسَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَيْسُ جَبَلٍ فَلَمْ يَزَلْ يَنْطَعُهُ حَتَّى قَطَعَهُ قِطْعَةً قِطْعَةً. Et Allah Azza wa Jal, donc après son retour, après la bataille de Uhud, après qu'Abdullah ibn Qami'a est retourné chez les siens, Allah Azza wa Jal, il va lui envoyer un bélier, un chevreuil de montagne encorné avec des cornes, hein, qui va venir l'attaquer et qu'il va le bousculer et qu'il va le frapper avec ses cornes à un tel point qu'il va le découper en morceaux. C'est ce que la version nous dit. Donc la version, elle laisse entendre que le professeur Sam a directement invoqué contre Abdullah ibn Qami'a. Dans d'autres versions nous disent qu'il va être balancé du haut du sommet. Comme le prophète a fait dans la vocation, Aqma'ak Allah, qu'Allah te jette. Et donc, selon cette version, yani, le prophète a invoqué contre lui, et quelques temps plus tard, Allah Azza wa Jal a répondu à son invocation. Non. Mais cette version n'a pas été authentifiée par tous les savants du Hadith. Beaucoup les rendent faibles. Non. Donc il restera un doute sur ça. Est-ce que le prophète sallam a invoqué clairement Allah, en tout cas contre Ibn Qami'a? Par contre, dans les versions qu'on a citées où le prophète sallam a dit que la colère d'Allah, attention, la colère d'Allah, elle est grande contre ceux qui font ça à leur prophète, comment un peuple pourra avoir le succès alors qu'ils font ça à leur prophète, dans plusieurs de ces versions, on nous dit que juste après, le prophète sallam a reçu la révélation, donc juste après ça, juste après avoir dit ça au moment où il a été blessé, il reçoit la révélation, où Allah Azza wa Jal dit dans sourate Ali Imran, « Laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. »« Laysa laka min al-amri shay'un. » Tu ne détiens pas l'ordre de cette affaire. Cette affaire, elle n'est pas entre tes mains. Quelle affaire? De quoi on parle? De quelle affaire? Eh bien, parce que le professeur Sam a dit كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم كذا وكذا. Comment un peuple pourra avoir la réussite alors qu'ils font ça ou ça à leur prophète? Donc Allah Azza wa Jal lui révèle cette affaire, l'affaire d'avoir la réussite ou de ne pas avoir la réussite, elle ne t'appartient pas, ça. Ça regarde Allah. C'est Allah qui décide. Toi, fais ton travail. Continue à faire ton travail. Et ne t'occupe pas de savoir est-ce qu'ils vont avoir la réussite ou ne vont pas l'avoir. Ça, c'est Allah qui décide. C'est Allah qui décide de guider qui il veut ou pas. Allah, il peut égarer quelqu'un malgré toutes les causes que tu feras pour qu'il soit guidé. Et inversement, Allah, il peut guider quelqu'un, alors que dans ta tête, tu ne feras aucun effort pour qu'il soit guidé, parce que dans ta tête, c'est impossible qu'il puisse être convaincu un jour ou l'autre. Mais en tous les cas, toi, tu ne devras pas rendre des comptes pour ça. Parce que ça, ça fait partie de la sagesse d'Allah et du décret d'Allah. Mais tu devras rendre des comptes sur le message que tu as transporté. Le message que tu as transmis. Et attention, quand je dis le message que tu as transmis, tous les musulmans ne doivent pas, et de toute façon ne peuvent pas, se transformer en des prophètes qui vont parler à tous les coins de rue, à tout le monde. C'est pas ça. Dans cette société, à notre époque, le fait d'être musulman, tu es d'une certaine manière ambassadeur de ta religion. Parce que tu le veuilles ou non, on t'étiquette comme un musulman. Et c'est pas faux, tu l'es. Mais souvent on étiquette des gens musulmans juste parce qu'ils ont atteint un méditerranéen et finalement ils ne le sont pas forcément. Mais à la kulli hal, en tout cas en ce qui nous concerne, si on nous étiquette musulmans, c'est vrai, on l'est. Mais on n'est pas que musulmans. C'est ça qu'on reproche quand on nous étiquette, il n'y a pas que musulmans. On est musulmans, on est français, on est pour certains algériens, marocains, etc. On est beaucoup de choses à la fois. Et souvent on peut s'entendre dire, il faut choisir. Non, je suis tout ça à la fois. Et toutes ces choses-là à la fois, elles ont autant d'importance les unes que les autres. Tout ça, c'est égal moi. Et moi, c'est égal tout ça. Et si tu enlèves une seule de ces parties, il y a une partie de moi que tu as enlevée. Non. Ala kulli hal. Tout ça pour dire que, à notre époque, le fait d'être musulman et de vivre simplement, c'est être ambassadeur de sa religion. Parce que tout ce que tu feras ou tout ce que tu diras, que tu le veuilles ou non, on fera un rapport et un lien avec la religion, alors que probablement ça n'a rien à voir. Et pourtant on fera un lien. C'est comme beaucoup de frères ou de sœurs, ils se convertissent à l'islam, et comme au début c'est compliqué avec leur famille, il faut du temps pour que la famille se rende compte finalement que cet islam leur apporte beaucoup de bien, mais au début ils ont des inquiétudes, et comment ne pourraient-ils pas avoir d'inquiétude leur famille quand ils entendent et voient tout ce qu'on peut en voir et entendre à la télévision, limite même nous, ça peut nous faire peur. Eh bien, souvent, ils disent, notre famille nous reproche beaucoup de choses qu'on faisait déjà avant l'islam, sauf que depuis qu'on est musulman, ils disent ça à cause de l'islam que tu fais ça, alors que je le faisais déjà avant, mathalan. Et on ne peut pas perdre toutes les mauvaises habitudes du jour au lendemain. Mais en fait, puisque tu t'es converti à l'islam, tout ce que tu feras et diras, c'est à cause de ta nouvelle religion. Non. Et de manière générale, les musulmans, c'est comme ça aussi. Et donc le musulman, il doit être responsable, il doit faire très attention à son comportement, à son attitude. Il doit d'abord faire très attention parce qu'il devra rendre des comptes à Allah. Surtout sur la moindre chose des choses qu'il dit ou qu'il fait. La moindre des attitudes qu'il a. Mais aussi, il doit avoir conscience que ça a de toute façon des conséquences sur ceux qui vivent autour de lui et qui le voient et qui l'entourent. Non. Ala kulli hal. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Comment je fais maintenant pour revenir? Non. Ala kulli hal. Le prophète, alayhi salam, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il a invoqué contre? On a dit pour Abdullah ibn Qami'a. La version n'a pas été authentifiée. Par contre, on a je citais le hadith dans lequel Allah Azza wa Jalla dit, il ne t'appartient pas, c'est pas toi qui appartient le fait est-ce que les gens ils vont être guidés ou pas. Cette affaire de est-ce qu'ils vont avoir la réussite ou pas, c'est pas, ça ne t'appartient pas à toi. Ça appartient à qui? Allah Azza wa Jalla. Laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim. Soit il leur pardonne, il accepte leur repentir, ou il va les châtier, parce qu'ils sont injustes. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla est en train de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'en sais rien, peut-être que même s'ils font quelque chose d'aussi grave que ça, c'est-à-dire lui il a peur que la colère d'Allah s'abatte sur lui. Attention avec ce que vous faites, vous aurez la colère d'Allah. Attention avec ce que vous faites, c'est pas possible que vous puissiez avoir la réussite. Allah Azza wa Jalla dit ça te regarde pas. Malgré ce qu'ils sont en train de te faire, peut-être qu'ils auront quand même la réussite.
Parce que c'est Allah qui décide de leur pardonner. Ou yatouba alayhim. Il va accepter leur repentir s'ils se repentent. Ou yu'adhibahum. Ou il va les châtier, fa'innahum dhalimun, parce qu'ils seront injustes, c'est-à-dire dans le sens qu'ils vont mourir dans cette situation. Non. Et selon beaucoup de versions, ce verset a été révélé à cette occasion. Parce que le prophète sallam a invoqué Allah hein, contre des gens à ce moment-là. Et donc Allah lui a dit, d'abord, il y a les versions qu'on a citées, où il avertit contre la colère d'Allah. Il avertit contre le fait que ça pourrait freiner la descente du succès et de la réussite. Et aussi, on a d'autres versions qui nous disent que le prophète sallam a invoqué contre certaines personnes à ce moment-là. Et qu'Allah Azzawajal lui a révélé ce verset. Non. Sauf que pour ce verset, les exégèses ils ont divergé en deux opinions. Il y a l'opinion qu'on vient de citer, celle qui dit que le prophète sallam a eu cette révélation de ce verset à la bataille de Uhud, au moment où il a été blessé, parce qu'il a invoqué contre des personnes. Et on a des versions qui nous disent que on ne l'a pas encore vu, mais on va le voir, lors de l'incident, on va appeler ça comme ça, même si c'est beaucoup plus grave qu'un incident, l'incident du puits de Ma'ouna. On le verra plus tard. Le puits de Ma'ouna, pour résumer, pour que vous compreniez, c'est des tribus qui ont envoyé une délégation au prophète sallam et qu'ils ont dit au prophète sallam, on veut se convertir, mais on ne connaît rien de cette religion, envoie-nous des gens qui vont nous instruire dans cette religion, qui vont nous apprendre à devenir musulmans. Le prophète sallam, comme c'était un temps de guerre, comme on le verra, il va leur dire, je ne peux pas les envoyer parmi vous, vous êtes entourés de tribus avec lesquelles vous êtes alliés, et qui nous font la guerre. Comment je pourrais vous envoyer des gens et risquer leur vie? Et le chef de cette tribu, il va dire au prophète sallam, je leur donne ma protection. Personne ne les touchera. Je leur donne mon engagement et ma parole. Le prophète sallam va envoyer 70 compagnons. Il va envoyer 70 compagnons parmi les compagnons de Médine et parmi les plus instruits dans la religion. Il va les envoyer. Et ils vont tomber dans un piège, en fait. Ils vont être trahis par un certain nombre de tribus. La tribu de Lihyan, Ri'lan et Dhakwan. Et ils vont tous les tuer. Et pendant un mois, le professeur Hassan, on le verra en détail, hein, on expliquera en détail, mais pendant un mois, le professeur Hassan va faire ce qu'on appelle Dua al-Qunut, la Dua du Qunut, à Salat al-Fajr. Il dit Sami Allah al-Muhammida, il se lève de ruku' et il invoque Allah Azza wa Jal contre ses tribus. Il va dire Allahumma al-an, l'ihyan, Allahumma al-an, ri'lan, Allahumma al-an, Allahumma al-an, dhakwan. Seigneur, maudit la tribu de l'ihyan, celle de ri'lan et celle de dhakwan. Et que à cette occasion, Allah Azza wa Jal aurait révélé le verset qu'on a cité de Surat Al-Imran, Laysa laka min al-amri shay'un, aw yatuba alayhim, aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. Cette affaire ne t'appartient pas, yani, la malédiction ou la guidée ou au contraire l'égarement. Si Allah veut, il accepte leur repentir, malgré la gravité de ce qu'ils ont fait. Et le professeur sallam, si on en croit ces versions, il aura arrêté d'invoquer contre eux après qu'il a reçu cette révélation. Non. Donc on a ces deux avis, et les deux avis sont forts. Est-ce que ce verset a été révélé à Uhud, ou il a été révélé pour Ri'lan et Dhakwan? Ala kulli hal, la majorité des exégèses penche plus pour la bataille de Uhud. Il penche plus pour le fait que ce verset a été révélé à l'occasion de la bataille de Uhud. Et c'est pour ça que nous on le cite ici, la bataille de Uhud. Et si on en croit leur opinion, c'est l'opinion par exemple d'Ibn Hajj al-Asqalani, rahimahullah, de Ahmed Shakir et d'autres. Si on en croit leur opinion à ces savants-là, à ces exégèses-là, ça voudrait dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre des gens. Mais on a des versions de toute façon qui nous le précisent. Par exemple, une version qui nous parle même de personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées et qu'ensuite il a reçu cette révélation et donc ensuite il a arrêté d'invoquer contre eux. Quelles personnes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon ces versions, il a cité? Il a cité Al-Harith ibn Hisham. Allahumma al'an Al-Harith ibn Hisham. Ya Allah, maudit Al-Harith ibn Hisham. Il a cité une deuxième personne, Allahumma al'an Suhail ibn Amr. Maudit Suhail ibn Amr. Et la troisième personne qu'il aurait cité, c'est Safwan ibn Umayya. Allahumma al'an Safwan ibn Umayya. Et il se trouve que cette version, elle nous précise que le verset lui a dit Laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba 'alayhim aw yatuba 'alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. Cette affaire ne t'appartient pas. Qu'ils vont être maudits ou vont pas être maudits, vont être guidés ou vont pas être guidés. Si Allah veut, il accepte leur repentir. Et s'il veut, il les châtie. Et s'il les châtie, c'est parce qu'ils sont injustes. Et il se trouve que le professeur s'est arrêté donc d'invoquer, de les citer eux, quand il a reçu cette révélation. Et il se trouve que ces trois personnes vont se convertir à l'islam. Certes tardivement, mais il faut se convertir à l'islam. Le premier cité, le Harith ibn Hisham, qui est le frère d'Abu Jahl. Et donc, il est un ennemi juré du professeur sallam. Et ici, les savants nous expliquent qu'ils disent le professeur sallam, quand il cite ces personnes, il fait ce qu'il doit faire. Il juge les gens en fonction de leur apparence. Sauf que comme il reçoit la révélation, Allah Azza wa Jalla lui dit stop. Allah Azza wa Jalla, d'une certaine manière, lui donne une information. Arrête d'invoquer contre eux. Si Allah y veut, il va leur pardonner. Tu sais pas. Et donc, le professeur sallam, certains pourraient dire, est-ce qu'il a commis une erreur en faisant ça à ce moment-là? Non, il n'a pas commis une erreur. Il a jugé selon l'apparence. Et à ce moment-là, à cet instant-là, leur apparence et tout ce qu'ils faisaient et toute leur hostilité envers les opprimés parmi les musulmans, etc., méritait que le professeur Azam dise ça. Sauf que comme le professeur Azam reçoit la révélation, Allah Azza wa Jal dit stop. Donc si quelqu'un il est opprimé, il est victime de graves injustices, etc., le mieux, c'est de surveiller ce qu'il dit dans ses invocations. Mais s'il n'y arrive pas et qu'il fait par exemple une invocation contre quelqu'un qui lui commet une injustice, eh bien, si vraiment il est victime d'injustice, on ne peut pas le lui reprocher, même si on dit le mieux, c'est qu'il ne fasse pas ça, qu'il invoque en faveur même, garde cette personne, qu'Allah le guide, qu'Allah lui ouvre les yeux. Non. Pas qu'Allah lui donne ce pétard, comme on peut entendre. Ou là, un frère, il m'a raconté, il m'a dit... ma grand-mère, quand elle s'énerve contre nous, elle nous dit Allah attaque déménagement. Qu'Allah il donne le déménagement. Et le déménagement, c'est pas facile à vivre. Et donc, comme elle, c'est son sommet de la colère, c'est ses enfants, ses petits-enfants, elle veut pas demander quelque chose de trop grave. Mais en même temps, le plus grave pour elle, à ses yeux, pour ses enfants, c'est le déménagement. Léana, tu vas d'un endroit à un autre, les cartons, les. Mrouan, c'est le bazar. Non. Ala kulli hal. Donc le professeur sallam a jugé selon l'apparence et quand Allah Azzawajal lui a révélé ce verset, il a arrêté. Et on a dit ces trois personnes ils vont devenir des compagnons. Al-Harith ibn Hisham, c'est le frère d'Abu Jahl. Il va être un des adversaires les plus fervents, les plus virulents, les plus véhéments du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, il va se convertir à l'islam le jour de la libération de la Mecque. Et il va être un des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite. Et il va perdre la vie dans Ta'un ou Amwas, la 18e année de l'Hégire. La 18e année de l'Hégire, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la peste, Ta'un. Et on l'appelle Ta'un ou Amwas. Amwas, c'est un petit village en Palestine. Et c'est là, entre guillemets, l'épicentre, c'est là que va commencer cette peste. Et donc c'est pour ça qu'elle est connue dans l'histoire sous ce nom, Ta'un Amwas, la peste de Amwas. Et donc on dit, les historiens disent, le Harith ibn Hisham, il est mort pendant la peste de Amwas. Le deuxième qui a été cité dans ces versions, c'est Suhail ibn Amr, radiyallahu anhu. Et lui aussi, lui, c'était un ambassadeur de Quraysh contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était très éloquent. Et donc il va faire beaucoup de tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va être prisonnier à Badr, il va être libéré, etc. Bref. Et pourtant, à la libération de la Mecque, il va se convertir à l'islam. Même un peu avant, Afwan. Suhail ibn Amr, il va se convertir même un peu avant. Entre le Hudaybiyah et la libération de la Mecque, il va se convertir. Et lui aussi, selon certaines versions, il va mourir, subhanallah, pendant la peste de Amwas. La peste de Amwas, elle a fait énormément de morts parmi les compagnons. À un moment, et c'est pendant le califat de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu. À un moment, le calife Omar ibn al-Khattab va recevoir les informations comme quoi il y a la peste, etc. Et ensuite, on va dire qu'il y a des milliers de musulmans qui meurent. En particulier parmi les compagnons qui vivent à cette époque-là, dans cette région du Chien. Et il y a une information qui va lui arriver dans laquelle on lui dit au prophète sallam, la peste de Amwas a pris fin. Et le compagnon Omar, il va aller avec des hommes vers le Chien pour aller passer en revue cette catastrophe, yani ce qui s'y passe. Sauf que Abu Ubaida ibn al-Jarrah, qui vit au Chem, c'est un compagnon, il va venir à la rencontre de Omar ibn al-Khattab, il va dire « Stop, juste je t'informe, pour que tu le saches, tu es le bienvenu, mais la peste, je ne sais pas qui t'a ramené cette information, mais la peste, elle est toujours chez nous. » Omar ibn al-Khattab, il va camper à cet endroit-là et il va demander conseil à ses compagnons. D'abord, il va demander conseil aux compagnons de l'Muhajirun, ceux qui ont fait l'émigration de Mecca vers Al-Madina. Il va dire l'Muhajirun en premier. Donnez-moi votre conseil. Et ils vont diverger entre eux. Il y en a, ils vont dire, tu es sorti pour une mission. Il ne faut pas que tu reviennes en arrière jusqu'à ce que tu aies accompli cette mission. Terminons ce voyage. Remettons-nous-en à Allah Azzawajal. Ah, si on doit mourir, c'est écrit. Non. Et il y a un deuxième camp parmi les compagnons qui vont dire il faut quand même faire l'asbab, il faut faire les causes. On sait qu'en allant là-bas, on a beaucoup de chances d'attraper cette maladie. Elle est contagieuse. Retournons à Médine jusqu'à ce que ça se calme. Et donc, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, finalement, il va appeler les compagnons de l'Ansar, les Médinois. Il va dire quel est votre avis? La même chose, ils vont diverger. Il y a un groupe qui va dire continuons, terminons cette mission, un autre groupe qui va dire non, c'est dangereux. Allah ne nous demande pas causer notre propre danger. Et ensuite, comme il n'arrive pas, Omar ibn al-Khattab, à avoir un avis clair, finalement il va demander l'avis de ceux qu'on appelle Mashiachat Quraysh, les nobles, les notables de la tribu de Quraysh, c'est-à-dire plus particulièrement ceux qui vont se convertir à partir de la libération de la Mecque. Il va leur demander leur avis et eux, ils vont être unanimes. Ils vont dire, il faut faire demi-tour. Il faut faire demi-tour. Et donc, Omar ibn al-Khattab, il va dire aux gens, nous levons le camp, nous retournons à Médine. Abu Ubaïd ibn al-Jarrah, qui vit là-bas au Chem, il va dire, Ya Amir al-Mu'min, au prince des croyants, Afiraran min qada'illah, est-ce que tu veux fuir le décret d'Allah? Tu as peur, sous-entendu, tu as peur de quoi? D'attraper la maladie? Et si tu attrapes la maladie, c'est qu'Allah il l'a écrit. Donc tu essayes de faire quoi là? Tu essayes de fuir le destin d'Allah Azza wa Jal. Et Omar ibn al-Khattab va lui dire, si seulement c'était quelqu'un d'autre que toi qui l'avait dit. Comment tu peux dire quelque chose comme ça? Tu es un compagnon proche du professeur sallam. Et tu nous accuses de vouloir fuir le décret d'Allah. Il va lui dire, na'am, nafirru min qada'illah ila qada'illah. Oui, nous fuyons le décret d'Allah pour aller vers le décret d'Allah. Si on fuit le décret d'Allah, comme tu le prétends, c'est pour aller vers quoi? Vers le décret d'Allah. Quoi qu'il nous arrive, c'est le destin, c'est Allah qui l'a décrété. Mais on n'est pas en train de contourner le décret d'Allah, au contraire, on est en train d'aller tout droit vers le décret qu'Allah nous a destiné. Non. Je ne veux pas ouvrir la parenthèse du destin et de comment il faut comprendre le destin, sinon on va pas finir. Mais tout ça, c'était pour parler de la peste de Amwas. À la Kulihal, Abu Ubaid ibn al-Jarrah, lui, comme il vit au Sham, il va retourner au Sham. Et il va mourir de la peste de Amwas. Tout comme il va y avoir une divergence entre les compagnons qui vivent au Sham. Par exemple, Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, il va être de ceux qui vont dire il faut nous éparpiller, nous disperser dans les vallées, dans les montagnes. Que chacun individuellement ou avec sa famille vit sans avoir de contact avec les autres. Lianna, il dit, cette maladie, c'est comme une souillure. Et il va même la comparer, il va dire, c'est comme un fleuve, un torrent d'eau, ou des flammes, il va dire. Il va dire, celui qui voit un torrent d'eau arriver, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit, il va sur la montagne, il va dans un endroit, il se cache jusqu'à ce que ça passe. Il dit, où le feu? Tu vois le feu arriver. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes? Et on attend de voir ce qui va se passer. Non, tu fuis, tu vas te cacher. Il dit, faisons la même chose. Il dit, parce que j'ai l'impression que cette maladie, à l'époque, on n'avait pas encore compris comment s'attraper cette maladie, comment les gens ils se contaminaient les uns les autres. Donc il a dit, j'ai l'impression c'est comme une souillure. Dès qu'elle touche quelqu'un, elle peut toucher un autre. Donc, comme le torrent d'eau, comme les flammes, il faut nous protéger. Pour nous protéger au mieux, éparpillons-nous. Ne restons pas regroupés et rassemblés. Il y a d'autres compagnons qui seront contre son idée. Ils vont dire non, au contraire. On ne doit pas s'éparpiller. Peut-être qu'en nous éparpillant, on va éparpiller cette maladie partout dans le monde. Restons regroupés. Celui parmi nous qui doit être touché, qui doit en mourir, en mourra. Celui qui doit guérir, en guérira. Celui qui doit en réchapper, en réchappera. Par exemple, le compagnon Shurahbil ibn Hassana. Lui, il sera de cet avis. Et donc, ils vont diverger sur comment faire. Shurahbil ibn Hassan va perdre la vie aussi dans la peste de Amwas, et finalement la plupart des compagnons qui vivent là vont se ranger du côté de la politique de Amr ibn al-As radiyallahu anhu, ils vont s'éparpiller jusqu'à ce que Allah azza wa jal fasse partir cette maladie, cette épidémie. Ala kulli hal, je suis rentré dans cette parenthèse parce qu'on citait les trois compagnons qui ont été cités par le professeur Assam dans ses invocations, mais dès que le professeur Assam va recevoir la révélation, il va arrêter d'invoquer Allah Azza wa Jalla contre eux, et justement, ils vont se convertir à l'islam. Non. Et de manière générale, même si on a ouvert cette parenthèse aujourd'hui pour dire que oui, il est possible qu'à des moments, le professeur Assam invoque contre un tel ou contre un tel en fonction de ce qui lui a apparu, c'est pas la politique du professeur sallam. Ça, c'est l'exception qui confirme la règle. La règle, c'est quoi? C'est que le professeur sallam, il invoque pour, il invoque en faveur de la guidée, en faveur du pardon, comme on l'a vu. C'est le professeur sallam, d'ailleurs, sur les invocations qu'il a faites. Ça peut lui arriver d'invoquer contre une personne et finalement, cette personne, il va se repentir. Comme ça arrivait avec ces trois personnes. Le professeur Assam, il a dit quoi dans l'authentique de Muslim? Il a dit Allahumma innama ana bashar. Oh Seigneur, je ne suis qu'un homme parmi les hommes. C'est-à-dire, je suis faillible. Je peux commettre des erreurs. Allahumma innama ana bashar. Fa ayyuma rajulim sababtuhu ou la'antuhu ou jalattuhu fa ayyuma rajulim min al muslimin. سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. Oh Seigneur, je suis qu'un homme parmi les hommes, je peux me tromper. Alors si il m'est arrivé d'insulter, d'invoquer ta malédiction, ou de fouetter un homme parmi les musulmans, c'est-à-dire qu'un homme qui finalement ne méritait pas cette malédiction, etc., فَجْعَلْهَا لَهُ زَكَاتًا وَرَحْمَةً, fasse que ça se transforme pour lui, cette invocation, en une miséricorde et en une purification. Mais de manière générale, comme on a dit, la règle pour le professeur Assam, c'est d'être indulgent, d'être doux, même dans les propos, et d'invoquer en leur faveur. مثلاً, Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est à travers la miséricorde qu'Allah t'a donnée que tu es doux envers eux. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Et si tu étais dur et d'un cœur rude, Allah aurait fait qu'ils se seraient tous éparpillés. Personne n'aurait voulu rester avec toi et n'aurait voulu écouter tes paroles si tu étais quelqu'un de dur. Mais au contraire, parce que tu es doux, parce que tu es indulgent, parce que tu es pardonneur, parce que tu es compatissant, les gens aiment rester avec toi, ils t'écoutent et ils sont convaincus. C'est grâce à ce comportement qui est la règle. Et c'est tellement la règle que le compagnon Anas ibn Malik radiallahu anhu disait « Lam yakunin nabiyu sallallahu alayhi wa sallam sababan wa la fahashan wa la la'anan. Fakana yakulu li ahadina inda al-ma'tabati ma baluhu tariba jabinu. » Donc le compagnon Anas ibn Malik qui était au service du professeur Hassan pendant 10 ans, il dit, le professeur Hassan n'insultait pas. Le professeur Hassan n'invoquait pas la malédiction. Alors, certes, on a dit qu'il y a des versions qui disent que si, il l'a fait. Mais c'est l'exception. Mais de manière générale, Anas ibn Malik, il ne le faisait pas, ça. De manière générale, il ne faisait pas ça. Ce n'était pas la règle chez lui. La règle chez lui, c'était de ne pas insulter, de ne pas invoquer la malédiction et de ne pas être obscène. Il disait vraiment, quand il voulait nous réprimander, nous dire vraiment, là, c'est pas bien ce que tu as fait, tu as abusé. Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, ma balu teriba jabino. Qu'a-t-il, en parlant de la personne qu'il veut réprimander, qu'a-t-il teriba jabino, que son front soit dans la terre. Et c'est une expression chez les Arabes. C'est pas une invocation du professeur Hassan, c'est une expression qui existait chez les Arabes, même avant l'islam, dans la Jahiliya. On la retrouve dans la Jahiliya. Qui veut dire, en fait, que tu mettes ta tête yani dans la terre, ou que ton visage soit plein de terre. Mais comme les linguistes nous disent, c'est une chose qu'on dit pour exprimer son étonnement, mais sans vouloir, sans avoir dans notre intention, lorsqu'on l'a dit, qu'il se passe ce qu'on invoque, ce qu'on dit. Parce que c'est une expression, les expressions c'est comme ça. C'est pour exprimer quelque chose, mais sans vouloir qu'elle s'applique littéralement. Non. Et donc le professeur Hassan, c'est ce qu'il disait. C'est le maximum qu'il disait lorsqu'il voulait réprimander, selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Non. Et donc il nous reste à voir, maintenant qu'on a parlé de ça, une chose par rapport aux blessures qu'a subies le professeur Hassan, quelle a été la réaction des compagnons. Et c'est ce que nous verrons la fois prochaine, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.